Alemania tapi esta me la pongo.
So, so, solidarité avec les sans-papiers.
J'appelle moi.
Ils ont mis des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
So, so, solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
Mercredi de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée lundi matin de 7h30 à 8h30 et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio. Et pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://resf.info/radio, soit vous vous arrêtez à resf.info, vous glanez toutes les informations que vous trouverez et vous pouvez signer toutes les pétitions. Vous trouverez la rubrique pétition en haut sur la colonne de gauche. Et ensuite, vous irez sur la rubrique des émissions et c'est toujours sur la colonne de gauche, mais un petit peu plus bas. Et donc, bien sûr, vous pouvez nous écrire et on aime bien recevoir du courrier. C'est pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, nous communiquer des infos ou nous demander des compléments d'information, nous demander de traiter tel ou tel sujet, enfin pour dire tout ce que vous voulez. Et pour nous écrire, c'est très simple, soit vous le faites par mail à resf.fpp@gmail.com, soit par la poste à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Et puis comme on ne fait pas de publicité, qu'on n'en fera jamais, vous pouvez toujours glisser dans l'enveloppe un petit ou un gros chèque. Et l'IBD à Association Paris pour Programme Associatif d'Intérêt Social, ou en cliquant sur le bouton du site http://www.rfpp.net, et là vous trouverez l'onglet faire un don. Encore une émission faite maison, enregistrée mardi pour mercredi. Alors on commence par prendre l'habitude, mais la nostalgie de l'équipe et des studios, eh bien cette nostalgie enfle. Et puis quand même un grand merci à Lucien qui est là pour assurer le suivi d'antenne, donc merci Lucien. Et cette émission sera encore consacrée au confinement ou au non-confinement impossible, au choix entre manger ou confiner selon les situations, enfin bref. Donc la semaine dernière, on avait déjà parlé de ce confinement, le confinement et les lieux d'enfermement des étrangers, centres de rétention administrative, zones d'attente. Alors en ce qui concerne les centres de rétention administrative et les zones d'attente, malgré la fermeture des frontières et l'impossibilité des expulsions, ils restent ouverts. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens enfermés, au moins à Coquel, au Ménilablo et à Vincennes, et sans doute dans d'autres centres de rétention. Et il semble que les révoltes et les grèves de la faim y continuent, bien qu'il y ait eu beaucoup de libérations. Et on avait évoqué l'action menée par la DDO et ADDE, avocat pour la défense des droits des étrangers, la CIMAD, le JISTI, le SAF, syndicat des avocats de France, et le Conseil national des barreaux auprès du Conseil d'État. Alors, par une ordonnance rendue le 27 mars, le juge des référés du Conseil d'État a refusé la fermeture temporaire des centres de rétention administrative. On peut trouver le communiqué interassociatif et le jugement sur le site du JISTI, www.jisti.org. Et on avait également parlé du confinement des jeunes isolés, mineurs ou majeurs à la rue, des incertitudes quant à l'hébergement et aux distributions alimentaires, des contrôles et des risques pris pour tenter de trouver un repas. Donc en une semaine, la situation reste à peu près identique, mais les actions de solidarité s'organisent. On verra donc comment ça se passe à Paris avec Aubépine Dahan de l'association Paris d'Exil. Puis on ira à Orléans avec Ségolène Petit du RESF Loiret et du COGI, un collectif de soutien aux jeunes isolés, qui nous donnera quelques nouvelles au passage de Junior, qui a été expulsé à Kinshasa quelques jours avant le confinement et en France, et qui est maintenant confiné à Kinna. Puis on fera un petit tour dans les Hauts-de-France avec Claire Klinwerk de Amnesty International, qui nous parlera de Calais et des évacuations suffisamment violentes pour que les victimes soient envoyées à l'hôpital, pas du tout à cause du virus, mais des tabassages. Alors la France pourrait bien s'inspirer du Portugal. Au Portugal, donc, tous les étrangers dont la demande de régularisation est en attente seront traités comme des résidents permanents depuis lundi dernier et jusqu'au 1er juillet au moins, et ce pour leur garantir l'accès aux services publics, leur droit à la santé, de bénéficier des mesures prises pour l'ensemble des citoyens, comme la prise en charge domiciliaire en cas de symptômes ou en cas de garde des enfants, les écoles étant fermées, mais aussi pour bénéficier des mesures de protection à l'emploi et du salaire destinées à diminuer l'impact économique de l'épidémie. Et cette politique vise également à réduire les risques de contagion en minimisant le contact avec le personnel des services de contrôle des frontières et les demandeurs indiquent le communiqué. Mais on n'est pas au Portugal. On va donc tout de suite retrouver Aubépine Dahan de Paris d'Exil. Bonjour Aubépine Dahan.
Bonjour Yves.
Tu es de l'association Paris d'Exil. Ce n'est pas la première fois que tu participes à cette émission. Et tu vas nous parler donc aujourd'hui de comment ce confinement se passe pour les jeunes isolés étrangers, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, mais aussi pour les familles. Comment ce confinement se passe pour eux à Paris.
En ce qui concerne l'hébergement, donc on est dans une période de confinement et c'est sûr que dans cette période, le fait que certaines personnes n'ont pas de logement ou ont des logements qui n'en sont pas vraiment ou qui ne remplissent pas toutes les fonctions d'un logement, c'est pour ça qu'on utilise le terme de hébergement. Ce fait-là ressort de manière encore plus dure et il y a des conséquences encore plus graves. Puisque j'aimerais commencer par rappeler que certaines personnes sont à la rue. Donc là, pour elles, il n'y a pas de confinement possible. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'elles sont tranquilles, parce que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de logement qu'elles ont le droit d'être dehors. Et donc, on a eu écho d'amendes distribuées par la police à des SDF, qui est quand même assez fort. Ensuite, il y a les personnes qui étaient à la rue et qui ont été, comme on dit dans le jargon administratif, mises à l'abri. Et donc, en réalité, ils ont été mis à l'abri, pas du tout à l'abri, dans des gymnases, puisque en période de confinement, c'est pas du tout adapté de mettre les gens par dizaines dans une seule grande pièce, avec aucune séparation et aucun moyen d'isoler les gens. Alors moi, j'ai vu passer des messages sur les conversations de militants qui avaient accompagné qui étaient présents lors de ces évacuations. Et quand on a demandé qu'est-ce qu'il en serait pour les personnes qui avaient déjà des symptômes du Covid, il nous a été répondu on pourra toujours les isoler dans les vestiaires. Donc c'est quand même assez inquiétant d'imaginer qu'on puisse confiner des personnes dans des vestiaires de gymnase, puisque c'est pas des endroits où il y a des fenêtres en général. Donc on voit que tout ça n'est pas vraiment réfléchi et que ça revient plutôt à mettre la poussière sous le tapis plutôt que de proposer une solution qui soit au niveau des solutions proposées aux autres personnes dans le pays, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une population qui est de deuxième catégorie et qui ne mérite pas que les précautions soient prises au même titre que pour les autres. Ça apparaît très clairement aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on savait déjà en tant que militant auprès des personnes exilées et des personnes à la rue et des personnes précaires, mais là vraiment c'est hyper brutal, quoi. Donc y a les gens qui sont à la rue, qui se prennent des amendes, il y a des gens qui ont été mis en gymnase et qui sont pas du tout en sécurité. Et puis après, il y a les personnes qui ont été mises en hôtel. Donc, La mairie de Paris a placé en hôtel un certain nombre de familles, mais les gens qui ont été placés en hôtel l'ont été essentiellement par les associations solidaires, non subventionnées. Donc, c'est par exemple une association qui s'appelle la CASA, dont je fais partie également, puisque Paris d'Exil fait partie de cette association, la CASA, a reçu un don particulier de 12 000 euros. Expressément destiné à mettre des mineurs en recours qui étaient à la rue, puisque la mairie de Paris ne les met pas à l'abri, jamais, à les mettre à l'hôtel. Mais donc, ces mises à l'abri à l'hôtel qui sont les seules qui soient acceptables, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont les seules acceptables, elles ont surtout été portées par des associations et des associations non subventionnées. Voilà. Et la mairie, y compris pour les mineurs, à proposer des gymnases, ce qui nous paraît vraiment, vraiment scandaleux. Alors après, comment est-ce qu'on se confine dans une chambre d'hôtel quand on est deux jeunes avec un ou deux téléphones et parfois même pas des smartphones? Ça veut dire que t'es deux dans 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, que t'as zéro activité, t'as pas le droit de sortir, c'est hyper hyper dur. Je sais que ça se passe pas très bien pour tout le monde parce que ils sont pas tous capables de rester cloîtrés 23 heures sur 24 dans une chambre, quoi. Donc voilà, quant aux familles, bah c'est là on est 3, 4, 5, 6 dans 15 à 20 mètres carrés, donc c'est la même chose, hein, c'est très difficile. Donc c'est sûr que le confinement fait ressortir la violence du mal logement à tous les niveaux, depuis la rue jusqu'au logement vétuste trop petit, ou alors un logement dans lequel on ne peut pas vraiment avoir d'activité, tu vois. Pour les familles qui disposent d'un vrai logement qui remplit les fonctions qu'on attend d'un logement, bah, c'est possible d'organiser des activités dans la maison, c'est possible de... Il y a des livres, il y a des écrans, on peut faire des choses... Voilà, bon, dans une chambre d'hôtel, évidemment, tout ça est très compliqué. Et donc, nous, on est assez inquiets pour les enfants en hôtel. Et c'est pour ça que, nous, on a expliqué aux familles qu'elles avaient le droit de sortir, un petit peu, au moins pour faire respirer les enfants. Mais pareil, pour organiser la sortie des familles en hôtel, c'est aussi une organisation. Parce qu'il faut s'assurer qu'elles disposent de l'attestation, qu'elles savent la remplir. C'est quand même rédigé dans un jargon administratif que tout le monde ne comprend pas forcément. Et puis, il faut disposer de papier, d'imprimantes, d'ordinateurs, de tout ça, toutes choses que peu de familles en hôtel ont sous la main. Donc, on a organisé des distributions d'attestations. Voilà, on a commencé à s'occuper de ça aussi. Ensuite, il y a la question de la nourriture. Donc, comment est-ce que les personnes précaires aujourd'hui font pour se nourrir? Donc, la première chose qui s'est passée avec le confinement, c'est la fermeture de toutes les distributions alimentaires sur lesquelles comptaient généralement les familles et les mineurs et les jeunes isolés. Qu'ils aient ou non une allocation d'ailleurs, hein, parce que même les familles qui touchent 300 ou 400 euros par mois, c'est pas comme ça qu'elles s'en sortent, donc elles vont aussi aux distributions. Mais a fortiori, les familles qui ne touchent aucune allocation, comme par exemple les familles sans papier, les déboutés du droit d'asile, ou les gens qui ne demandent d'asile que pour leurs enfants, et donc eux n'ont pas les conditions matérielles d'accueil. Donc tout ça, c'est des gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans ressources pour se nourrir. Et donc là, on sait très bien, on sait comment ça s'est passé, en tout cas dans certains hôtels où on suit les familles. Donc les assistantes sociales sont passées dans les chambres, ont demandé comment est-ce que vous allez faire pour vous nourrir. Et les gens ont dit, on n'a pas de ressources. Et donc la réponse, ça a été, il va falloir vous débrouiller, il va falloir faire un effort. Et donc là, on se demande un petit peu à quel type d'effort elles font allusion, puisque c'est des personnes qui n'ont pas le droit de travailler. Donc, on se demande bien de quels efforts il peut être question. Donc ça a été la première chose, la fermeture de toutes les distributions. Puis, quelques jours plus tard, l'association Aurore a été chargée de distribuer de confectionner et distribuer des plateaux repas ou des paniers repas dans 3 endroits de Paris. Bon, après, on a appris que ces endroits répartissaient les paniers dans d'autres endroits dans Paris, comme une vingtaine de paroisses, par exemple, où les familles et les gens peuvent se rendre pour prendre les choses. Mais ça a déjà pris une semaine, tu vois. Et puis là, ces jours-ci, là, reprennent péniblement la distribution de tickets service. Donc, c'est des tickets d'une valeur de 5 euros que tu peux échanger en magasin d'alimentation contre de la nourriture. Enfin, tu peux acheter, c'est comme des tickets resto, quoi. Mais c'est uniquement pour les familles non demandeuses d'asile qui sont censées avoir une allocation. Enfin, il y a plein de trous dans la raquette. Donc, nous, par exemple, à Paris d'Exil, mais on n'est pas les seuls, hein. Chacun, tous les collectifs et assos solidaires se sont mis sur le coup assez rapidement. Nous, on a commencé par lancer une cagnotte dès le dimanche des élections, le dimanche 15. Donc, c'était même avant le début du confinement. Cagnotte qui a hyper bien marché, à notre grande surprise. Il y a eu un grand élan solidaire à ce moment-là. Et à partir de là, à partir des familles qu'on connaissait, de proche en proche, on a identifié 2 ou 3 dizaines de lieux où les gens étaient rassemblés dans des hôtels et en gros n'avaient pas à manger, quoi. Et donc on a organisé la distribution d'argent liquide, puisque nous, de toute façon, depuis le début, on préfère donner de l'argent aux gens plutôt que de leur faire les courses. Et là, ça s'est imposé non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire que déjà, aller faire ses courses pour soi-même, c'est une sortie. Donc, on ne va pas demander en plus à des soutiens d'aller faire une deuxième fois les courses. Bon, bref, ça ne nous paraissait pas une bonne idée au plan sanitaire. Et donc, on a commencé à s'organiser pour distribuer à partir de cette cagnotte de l'argent aux familles pour qu'elles puissent, comme tout le monde, aller s'acheter à manger, quoi. Mais nous, ça a commencé depuis le 15 mars. Au départ, on avait une dizaine de familles qu'on connaissait bien. Et puis maintenant, on est en contact avec 50 familles et je ne sais pas combien d'hôtels. Et du coup, ça nous a permis d'alerter la mairie de Paris et le SAMU social, qui sont quand même responsables de ces familles. Et de les faire, enfin, elles auraient sans doute mis quelque chose en place, mais enfin, on a mis une pression, quoi. On a dit que, voilà, c'était, y avait des gens là et qui pouvaient plus se nourrir et qu'il fallait faire quelque chose et que c'était pas aux personnes solidaires de payer pour ça, quoi. Donc, en plus, là, ils se mettent par exemple, ils distribuent, ils disent oui, mais c'est bon, on distribue des plats préparés. Et là, on leur dit, même, enfin, c'est pas comme ça qu'on va avoir des couches et du lait en poudre pour les bébés. Tu vois, c'est un truc, ça leur échappe, quoi. Genre, il y a des hôtels avec des dizaines de bébés. Comment on fait pour les couches et le lait? Donc voilà. Donc ça, c'est pour la nourriture. Et pour les mineurs qui ont été placés en hôtel, bah là, c'est pareil. Hein, c'est le tissu solidaire qui s'organise. Donc il y a des distributions. De plats cuisinés tous les jours dans les hôtels où les mineurs ont été placés. Voilà. Et alors, d'un autre côté, j'ajoute juste qu'il y a des agriculteurs, des producteurs qui ne savent pas où trouver des débouchés pour leur production, puisque les marchés ouverts ont été interdits. Donc, ça paraît... Ça paraît une bonne idée d'essayer de travailler à mettre en lien toutes ces personnes et essayer de faire quelque chose de plus efficient et de plus malin que de distribuer des plats cuisinés sous barquette plastique. Voilà, donc non seulement il y a le fait de faire quelque chose qui a pris beaucoup de temps aux autorités, mais il y a de faire quelque chose qui soit adapté. Parce qu'en réalité, toutes les personnes, qu'elles soient en bidonville, en hôtel ou autre, elles demandent des denrées à cuisiner. Elles ne demandent pas simplement des plats cuisinés qui périment 2 jours après ou même le lendemain et qui ne correspondent pas à leur goût, tu vois. Donc là aussi, on voit qu'il y a un gros travail à faire sur le type de choses qu'on distribue et comment est-ce qu'on s'organise. Donc voilà, donc ça c'était pour la nourriture en temps de confinement. Et puis troisième point que tu avais évoqué, c'est le soutien scolaire, l'école à la maison. Donc là, effectivement, c'est aussi quelque chose à laquelle on a pensé assez rapidement. puisqu'on connaît beaucoup d'enfants scolarisés. Alors, je sais que pour les mineurs, les jeunes isolés qui allaient au cours de français à la Bibliothèque Couronne, avec l'association Paris d'Exil, les profs ont essayé de garder le contact avec les jeunes qui étaient à leur table, puisque à la bibliothèque, chacun a une table avec 5 à 6 jeunes par niveau. Donc, chaque prof a essayé de garder le contact par le biais de WhatsApp et de continuer à donner des petits exercices, à faire de la conversation. Et puis, c'est l'occasion aussi de rester en lien, de papoter un peu, de voir si ça va, si le moral est bon, la santé aussi, parce qu'il y a des jeunes qui sont tombés malades. Et donc, ça, je sais que ce lien-là a été conservé. L'association, une autre asso dont on est très proche, qui s'appelle Droit à l'école, a continué également à faire ses cours en ligne dans la mesure du possible. Il faut évidemment que les jeunes aient au minimum une tablette ou au moins un smartphone, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais enfin, voilà, ils ont essayé au maximum de conserver les liens et les enseignements. Ensuite, y a des enfants scolarisés. Alors là, c'est déjà, je ne sais pas si tu as eu écho, l'école à la maison, déjà pour des familles qui n'ont aucun problème, c'est déjà chaud parce que, mine de rien, c'est 2 ou 3 heures de travail par enfant chaque jour. Et ce n'est pas forcément évident. Alors, on imagine ce que c'est. C'est pas des simples devoirs, quoi. Hein. C'est vraiment 2 à 3 heures de boulot, des maths, du français, de l'histoire, de la géo, des arts, tout ça. Donc, avec aussi la question des outils informatiques que les familles ne maîtrisent pas forcément. Donc, ne serait-ce que d'ouvrir un mail, d'ouvrir les pièces jointes, d'aller cliquer sur des liens pour aller faire des maths sur les sites spécialisés qui sont vachement bien. Hein. Mais faut-il y accéder, quoi. Et donc, pour y accéder, il faut forcément au moins une tablette ou un ordinateur. Les pièces jointes, si on peut imprimer, c'est quand même mieux. Mais si on ne peut pas imprimer, il faut au minimum les ouvrir, savoir les exploiter et tout. Donc, du coup, alors je sais qu'il y a des réseaux de soutien scolaire par téléphone et en ligne qui se sont mis en place assez rapidement, tout à fait en dehors de Paris d'Exil. Hein. C'était des réseaux d'aide aux devoirs, en fait, qui se sont tout de suite mobilisés. Mais nous, évidemment, on a aussi pensé aux familles qu'on connaît. Et voilà, donc on a essayé de... Là, on est encore en train de répertorier les... Parce qu'on a été très, très pris par l'urgence alimentaire. C'est beaucoup de boulot de distribuer 150 euros à 50 familles et de récupérer des reçus et de trouver des gens à proximité pour apporter les sous. Enfin, tu vois, c'est tous les jours, avec des signalements nouveaux tous les jours. Donc, c'est quand même pas mal de boulot. Mais bon, cette question des devoirs, elle a été aussi... c'est aussi notre préoccupation. Et donc là, on commence à répertorier les enfants. Il y a des tas de réseaux d'acteurs qui proposent d'appeler pour lire des histoires chaque jour, pour tromper un peu l'ennui et puis aussi avoir un contact en dehors de la cellule familiale. Et puis là, on est en train de trouver aussi des gens qui sont d'accord pour aider. Mais tu vois, pour aider, il faut avoir la fibre pédagogique. Il ne faut pas avoir soi-même 1 ou 2 ou 3 enfants à qui on doit faire faire les devoirs chaque jour parce que c'est hyper lourd. Et on doit être relativement dispo pour pouvoir passer, je dirais, 2 heures chaque jour de la semaine par WhatsApp à aider un enfant à faire ses devoirs. Quoi.
Oui, c'est très Donc, compliqué.
Mais c'est important de le faire et je pense que ça peut créer aussi des nouveaux liens et ça peut mettre... Il y a des tas de gens là qui s'ennuient un petit peu chez eux. Enfin, je pense que ça peut vraiment être l'occasion de mettre des gens en lien que l'on n'aurait pas fait avant. Quoi.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi des gens qui n'ont pas accès au réseau Internet? Parce que dans les hôtels, il n'y a pas forcément
Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que tu as des jeunes mineurs ou majeurs isolés qui n'ont qu'un un simple téléphone... qui peut pas se connecter, donc déjà ça c'est pas possible. Et puis il y a des choses qui sont pas accessibles simplement avec un téléphone. Et puis il faut ce réseau, en effet. Donc tu as des gens, ils ont suffisamment de ressources pour avoir un abonnement internet ou bien ils arrivent à choper l'outil, Mais c'est sûr que quand tu dépends du Wi-Fi, que tu l'as pas toujours, ça rend les choses plus compliquées, oui. Je te dis, il y a cette question des outils, en fait, ne serait-ce que pour accéder, tu vois, c'est avant même la question de est-ce que tes parents peuvent t'aider à faire les devoirs, c'est la question de est-ce qu'ils arrivent à accéder aux matériaux de base, tu vois, aux pièces jointes, aux tableaux, aux sites, tout ça, quoi. Et donc là, ça dépend à la fois du réseau et ça dépend du matériel que tu as sous la main. Voilà. Donc, c'est sûr que tous ces aspects-là, qui sont déjà des sources de violence et d'inégalité habituellement, ont été multipliés, quoi,
Voilà. Eh
avec
bien,
le confinement.
merci beaucoup, Bépine. Et puis peut-être s'il y a des liens avec des réseaux, les différents réseaux, tu pourras nous les envoyer, puis on les mettra
D'accord.
sur la page de l'émission quand on la mettra en ligne.
Ça marche, ça
Ok,
marche.
hein, c'est sûr. Donc resf.info/radio, et là on trouvera la page de l'émission quand elle sera en ligne avec les liens que tu nous enverras.
D'accord, je m'en occupe.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bépine. Et
Bah,
puis,
merci beaucoup, Yvan.
tu peux rester à l'écoute de FPP.
D'accord.
Et on se dit à très bientôt, pour en reparler.
À bientôt, Yves. Bonne journée, au
Bonne
revoir.
journée. Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Donc on était avec Aubépine de Paris d'Exil, et pour retrouver la cagnotte de Paris d'Exil dont Bépine parlait, eh bien vous la trouverez en page d'accueil de l'association www.parisdexil.org, et c'est beaucoup plus simple que d'aller la chercher sur la cagnotte, enfin l'adresse exacte de la cagnotte, donc vous avez le lien qui est là. Et on va faire une petite pause musicale avant de retrouver Ségolène Petit en écoutant On m'a vendu du rêve, extrait de l'album du même nom, réalisé par les jeunes de la SMI.
Je voulais juste m'en aller me vendre, mais je ne savais pas. J'ai fait confiance aux belles images qu'on m'avait vendues de l'Europe. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
J'ai voulu un avenir. On m'a traité de menteur. Pas besoin de vous le dire si je ne veux pas y repartir. Je suis mineur, même si ça vous fait peur. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
En grandissant, je m'aperçois que plus tu grandis, moins tu souris. On m'a vendu la vie en France comme un avenir si joli, formidable, avec fin et rêve. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
Je n'avais jamais voyagé, je suis devenu aventurier. Arrivé en France, errance, perdu dans les rues de Paris. Je me sens seul et je le suis. Complètement désorienté. N'est pas tombé, n'est pas hurlé. La gorge ne m'a pas gardé. Je vois des gens marcher nul pied. Jamais personne à leur côté. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
5 mois plus tard, c'est encore moi. Toujours dehors, me revoilà. Je cours les rues, livré à moi-même. Je navigue à vie. Pas le temps d'avoir de la haine. Il veut juste une trêve. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
Rien n'est donné ici. Tu as des droits, tu y crois, et hop. Toujours dans la survie, je me dis rien n'est donné en Europe. C'est comme au pays, il faut toujours se battre. Comme en Afrique, je veux mener ma barque. Mais la vie Europe me rattrape. Et même vos qualités, je les vois pas. Je veux les retrouver, les éprouver, m'en entourer. Je veux pleurer et pas crever. J'ai 14 ou 15 ans. Tu fais des tests sur mes dents comme si j'étais un cheval que tu vas vendre sur un étal. Tu veux des preuves, tu dis m'aider. Tu ne sais pas me respecter. Tu penses encore l'Européen supérieur aux petits Africains. Tant pis pour nous, tant pis pour vous. L'Europe et ses qualités, ses règles, ses lois non respectées. Je n'ai aucune liberté. Je suis là, sans rien. Je tiens, Tu me traites même pas comme ton chien. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
J'ai vu mourir dans le désert, pas d'eau. J'ai vu mourir parfois mon frère. Tu dis que c'est faux. J'ai traversé la Méditerranée, celle-là même dont les plages t'accueillent. Quand tu pars en vacances, te reposer dans son lit, tu te laisses porter sans même penser à cette même meurtrière. Tombeau pour mes frères, paix, mais le cauchemar, la nuit me réveille, je me revois dans ce bateau. Beaucoup de morts qui me hantent pour arriver dans ton pays dont j'avais tant rêvé, où l'homme nous laisse dormir dehors, mal accueilli. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas au niveau. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
Vous êtes toujours à l'écoute du RSS sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et pour le banlieue, www.rstv.net, partout dans le monde. On vient d'écouter On m'a vendu du rêve par les jeunes de l'ASMI et on va tout de suite retrouver Ségolène Petit enregistrée depuis Orléans. Bonjour Ségolène, Ségolène Petit, RESF Loiret. Donc tu nous appelles de Orléans et tu vas nous donner des nouvelles d'abord de toi. Comment vas-tu ?
Bonjour Yves, ça va, je suis confinée mais j'ai un petit jardin, donc je ne fais pas partie des gens qui sont les plus à plaindre. Voilà, et il y a du soleil, donc pour personnellement ça va, mais c'est vrai que dans le Loiret il y a des choses, enfin en tout cas dans l'agglomération orléanaise, là il y a des choses qui sont un petit peu tendues, notamment dans la situation des jeunes isolés étrangers qui sont devenus majeurs et donc plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc pour eux il y a des difficultés à pouvoir être ravitaillés, à pouvoir se nourrir, quoi, vivre tout simplement. Donc la semaine dernière on a fait un article de presse au niveau de notre collectif de soutien aux jeunes isolés étrangers, qui est vraiment une émanation du réseau Éducation sans frontières qu'on a créé pour pouvoir être avec eux et ensemble faire valoir leurs droits, quoi. Voilà. Donc au niveau de ce collectif, la semaine dernière, on a fait paraître un article qu'on a envoyé un petit peu partout aux médias et puis aussi à la préfecture, à la cohésion sociale pour soulever le problème de ces jeunes qui sont pour nous dans une situation qui est révélatrice quand même de la situation de précarité de l'ensemble de la population, parce que on voit bien qu'un peu partout en France, et donc nous on n'y a pas échappé, que les solutions ont tardé à venir quand même pour pouvoir vraiment permettre à toutes ces personnes qui sont en difficulté dans le quotidien, qui sont déjà en difficulté dans le quotidien, que de là, de pouvoir leur permettre d'accéder vraiment au confinement, parce que quand on demande à la population entière de rester chez soi, encore faut-il avoir un chez-soi, encore faut-il pouvoir accéder à la nourriture, etc. Voilà. Et la situation la plus problématique chez nous, ça a été pour des jeunes qui sont donc, je l'ai dit tout à l'heure, plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais encore scolarisés, donc pas encore autonomes parce que encore en études, etc. Donc qui ont besoin d'être hébergés, donc ils sont hébergés par l'État. Ça, de ce côté-là, c'est à peu près correct, enfin tout le monde l'est. Mais parmi ceux-là, il y a des hébergements qui conviennent plus ou moins. Et on mettait l'accent sur un hébergement qui ne va pas du tout, pour lequel on a déjà beaucoup beaucoup fait de choses pour pouvoir essayer de faire évoluer vers le positif. C'est un hébergement où les jeunes sont pris avec des familles, ils sont dans le même, c'est un établissement qui est un ancien hôtel qui a été transformé en hébergement collectif. Et en fait, il y a une surpopulation dans cet endroit-là, les douches et les WC sont collectifs, il n'y a absolument pas de quoi cuisiner. Le lieu a ouvert en octobre 2019, on nous promettait un équipement cuisine et des frigos dans chaque chambre pour le mois suivant, enfin au plus tard, le mois d'après, c'est-à-dire pour octobre, on avait ça au plus tard en décembre, et voilà, donc on est en Et maintenant, en mars, bientôt en avril, et il n'y a toujours rien, quoi. Donc, les jeunes, en plus, étaient prévus d'être deux par chambre quand ils ont vu les conditions dans lesquelles on comptait les mettre, sans possibilité de cuisiner ni de stocker de la nourriture ni rien, alors qu'ils sont encore scolarisés. Donc, il y en a beaucoup qui ont refusé d'aller dans ce lieu-là, qui ont essayé de se débrouiller par eux-mêmes. Ça a été difficile depuis ces derniers mois. Et donc là, avec le confinement, ça s'est encore plus exacerbé les problèmes. Donc, ce qu'on demandait, c'est que dans ce lieu particulièrement, il y a une distribution de plateaux repas, comme l'aide sociale d'ailleurs a décidé de le faire pour tous les jeunes qui sont encore pris en charge. Ça se fait, quand on a la volonté de le faire, on sait que ça se fait, puisque l'ASE l'a fait immédiatement, deux jours après le confinement, tous les jeunes étaient livrés en plateaux repas. Donc, ça a tardé. Finalement, on a réussi à comprendre qu'il y avait quand même un peu de nourriture qui arrivait sur ce lieu, mais en fait, on nous a parlé de plateau repas, mais c'est des colis alimentaires, donc il y a toujours le problème d'avoir à réchauffer des plats qui sont servis sous vide, genre, vous savez, les plats qu'on trouve en grande surface, en réchauffé, quoi. Ça veut dire qu'il y a 150 personnes qui ont accès tout à la fois à deux micro-ondes dans une pièce qui est en fait l'entrée de cet ancien hôtel, quoi. Donc c'est pas du tout les gestes barrières sont pas respectés. Et puis finalement, les personnes, comme elles n'osent pas toucher ces micro-ondes, parce qu'il n'y avait pas non plus au départ, alors il semblerait que maintenant il y ait des produits de désinfection, mais au départ il n'y avait rien de tout ça, donc elles préféraient sortir une fois par jour pour aller manger à l'extérieur plutôt que d'utiliser ces matériels qui n'étaient pas en nombre suffisant, dans de bonnes conditions d'hygiène, enfin bon, bref. Donc voilà, donc... tout ça, on l'a dénoncé. Petit à petit, au fur et à mesure que les jours passent, on obtient un petit peu mieux. Donc là, la dernière fois, on demandait à ce qu'il y ait à nouveau, on a redit qu'il fallait que ça soit des plateaux repas, c'est-à-dire quelque chose qui soit directement utilisable et qui n'ait pas besoin de passer par un réchauffement au micro-ondes. Donc on attend toujours que ça soit ça, et apparemment ça ne l'est toujours pas. D'autant qu'on a été beaucoup en relation au niveau de ce lieu-là ces derniers jours avec la cohésion sociale, parce qu'il y a eu aussi un problème avec un jeune en particulier qui a été mis à la porte à 10h du soir. Il nous a appelé en nous disant qu'on ne le laissait pas entrer à l'intérieur. Et les personnes qui gèrent ce lieu ont considéré qu'il n'avait pas respecté les règles de confinement parce que le gardien ne l'a pas vu pendant deux jours d'affilée. Alors il semblerait que le gardien soit omniscient et sache qui passe et qui ne passe pas, alors qu'il n'est pas toujours planté devant la porte d'entrée. Mais bon, voilà, donc ce jeune à 10h du soir était dehors et ça a duré 4 jours avant qu'on réussisse à le faire réadmettre avec des coups de fil à n'en plus finir, des demandes... des coups de gueule, quoi. Il a fallu pousser des coups de gueule pour que ce jeune, parce que le jour où ils l'ont réadmis, c'était dimanche, le jour où il a recommencé à faire très froid, et on a dit maintenant ça suffit, vous arrêtez là, soit on récupère un sac de ses vêtements, parce que même récupérer un sac de ses vêtements, ça leur posait problème, ils voulaient pas. Ils voulaient pas que quelqu'un à l'intérieur, par exemple le gardien, prenne des vêtements de ce jeune et nous dépose un sac dehors pour que le jeune puisse récupérer ça et aille sur un hébergement proposé par le 115. Et puis finalement on a tellement insisté qu'il a fini par être repris sur le lieu même donc où il était hébergé, et comme par miracle on a trouvé une chambre avec toilette et douche individuelle là-dedans. Voilà, donc c'est miraculeux. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé, d'énergie, etc., pour des situations qui ne devraient pas exister dès le départ, quoi. C'est pas normal qu'à 10h du soir, on mette un jeune dehors au prétexte qu'il ait soi-disant pas respecté le confinement. La chambre qu'on lui a ouverte 4 jours après, on aurait pu le mettre directement dedans avant de démêler l'histoire et de savoir quoi ou qu'est-ce. Parce qu'en plus de ça, dans les moments où j'ai appelé justement pour faire préparer le fameux sac là, on a fait poser à la question au gardien de savoir si j'étais bien au courant de la raison pour laquelle le jeune était dehors. J'ai dit oui, je sais pourquoi il est dehors. Je sais que vous considérez qu'il n'a pas respecté le confinement, mais là n'est pas la question. Pour l'instant, il est dehors, il a froid, il gèle. Donc maintenant, vous allez faire ce qu'on vous demande, sinon il va y avoir un gros, gros problème, sérieux. Donc là, enfin bon, vous voyez, il a fallu vraiment, vraiment être très, très, très... beaucoup se battre, voilà. Et donc la situation, elle reste tendue, on reste vigilant. Nous, ce qu'on a fait, en fait, sur le collectif, là, de soutien aux jeunes, bon, dès qu'on a su que le confinement allait être annoncé, quelques jours avant, on a décidé d'envoyer une info aux jeunes en disant que la prochaine réunion n'aurait certainement pas lieu, mais qu'on les tiendrait au courant. Et puis, quelques jours après, on s'est organisé avec tous les militants du collectif qui voulaient bien assurer ce petit boulot, de se répartir tous leurs numéros de téléphone, parce que nous, on a quand même à peu près, on a 300 jeunes dont on a les coordonnées, qui peuvent être aussi bien pris en charge par les sous-sages à l'enfance que déjà majeurs et hébergés par l'État, mais enfin voilà, qui viennent plus ou moins régulièrement à nos réunions, donc on a leurs coordonnées. Donc on s'est réparti leurs coordonnées en une quinzaine de personnes, et tous les jours, voire tous les 2-3 jours, si on n'a vraiment pas le temps, on les appelle pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir s'ils respectent bien le confinement, si c'est possible pour eux, sinon pourquoi, et s'ils ont bien à manger, et s'ils arrivent aussi à pouvoir travailler dans la continuité pédagogique comme c'est proposé, mais sachant que pour eux non, c'est souvent impossible, parce que comme ils n'ont que des téléphones pour pouvoir travailler, c'est difficile pour eux d'accéder au logiciel de l'éducation nationale. Donc après ils trouvent petit à petit, il y en a qui trouvent un truc, alors on fait passer l'idée aux autres, etc., par téléphone, voilà. Donc par exemple ils accèdent au site de leur lycée, ils voient le devoir à faire, ils le font sur papier libre, ils le prennent en photo, ils le renvoient par WhatsApp, etc. Enfin, voilà. Puis il y a des profs qui ont proposé de faire des groupes WhatsApp aussi spécifiques. Enfin bon, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais c'est compliqué pour eux quand même. De manière générale, c'est compliqué parce qu'en plus de ça, beaucoup n'ont pas de connexion Internet. C'est d'ailleurs le lieu dont je viens de parler longuement, il n'y a pas de connexion Internet. Et quand il n'y a pas, évidemment, ils sont très limités au niveau temps de forfait, quoi. Très limité, donc c'est pas très possible pour eux. Voilà.
S'il n'y a pas, et à part faire une collecte pour acheter du forfait, c'est très compliqué.
Bah oui, donc après, on a aussi une info en direction des lycées, puis moi je participe aussi en tant que chargée de mission à la FCPE du Loiret à un groupe de travail qui fait remonter les infos au niveau du rectorat. Donc on a bien signalé le problème au chef d'établissement, disant attention, ces jeunes-là, il faudra être indulgent parce qu'ils ont de gros, gros problèmes d'accès au travail qui est proposé par les professeurs. Bon, mais sachant que nous, on a insisté aussi beaucoup au niveau du Loiret pour dire que le travail proposé par les établissements, ça doit être du travail de soutien, mais que on est complètement contre l'idée que ça puisse être évalué, sanctionné, etc. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir aider les jeunes, qu'il n'y ait pas une trop grosse perte pendant le temps où ça aurait été suspendu. Voilà, mais ça, pour nous, il y a absolument pas, surtout au vu de situations comme ça, il n'y a absolument pas possibilité de pouvoir faire des apprentissages de nouvelles notions et encore moins de les évaluer, etc. Parce que du coup, il y a plein de nos jeunes, mais aussi beaucoup d'autres jeunes et d'enfants qui n'auront pas eu les accès possibles pour pouvoir faire correctement ce travail-là. Donc voilà, on a prévenu qu'il faudrait être attentif à ces situations-là. Et voilà.
C'est de toute façon très très compliqué si on n'a qu'un téléphone et un smartphone et une connexion Internet aléatoire. C'est compliqué.
Ben oui, c'est compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai à ce sujet-là je ne sais pas si tous les auditeurs qui nous écoutent depuis très 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 longtemps, mais j'ai eu il y a 2 jours au téléphone quelqu'un dont on a beaucoup parlé en 2008, qui s'appelle Najla. qui a deux petites filles qui sont à l'école et qui me disait, elle, que c'était compliqué pour elle. La première chose qui a été compliquée, c'est qu'elle a dû aller en urgence acheter une imprimante. Voilà, ouais. Pour pouvoir... je dis, mais c'est pas normal. Tu devrais pouvoir faire le travail de tes filles sans avoir besoin d'acheter une imprimante. Tu devrais pouvoir le faire sur papier libre, etc. A priori, c'est... Et ils ont commencé par avoir du travail proposé et seulement après, l'école est revenue vers les parents, enfin par message interposé, bien sûr, par mail, en leur demandant qui avait des imprimantes et qui pas, et donc en adaptant le travail au fait qu'effectivement des familles pouvaient ne pas avoir d'imprimantes. Mais bon, elle avait déjà commencé, enfin elle avait quand même fait la dépense très rapidement, alors qu'elle me dit, moi ça c'était pas prévu dans mon budget. Hein. Donc effectivement, il y a beaucoup d'incohérences comme ça, beaucoup de situations qui se révèlent difficiles, ben oui, par manque de moyens, par manque d'accès à toutes les possibilités qu'on a, nous, facilement, et puis dont on ne se rend pas forcément compte qu'elles peuvent être faire défaut de manière cruciale, quoi, pour les autres. Donc c'est pour ça, il faut rester vigilant, il faut vraiment rester en contact avec les gens, savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui va pas, etc. Parce que c'est pareil, nous au début, les jeunes, on leur disait, mais quand on les appelait, on leur disait, bon ça va, Pronote, tu as accès, tu arrives à te connecter. Alors, ils nous disaient oui. Bon, puis voilà. Puis après, on s'est dit, mais non, mais ça suffit pas, il faut vraiment aller plus loin, poser plus de questions. Alors, donc tu arrives à te connecter, mais est-ce que tu as réussi à faire des devoirs? Ah, non, pourquoi, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment... il faut vraiment quand je dis être vigilant, il faut montrer un petit peu plus de, comment dire, de, c'est pas de la curiosité, mais de pugnacité, pour s'assurer que on n'est pas passé à côté d'un problème qui peut être embêtant quand même, voilà, qui en tout cas que les jeunes vivent mal, hein.
Et sinon, tu as des nouvelles de Junior, dont on avait beaucoup parlé aussi, et qui lui a été expulsé très peu de temps avant la fermeture des frontières.
Voilà, c'est ça, Junior. Donc oui, je continue à l'appeler régulièrement. D'ailleurs, je suis pas la seule. Il a pas mal d'appels téléphoniques, ce qui est bien parce que c'est compliqué, vraiment très dur, hein, pour lui, parce que bon, il a été expulsé le 5 mars. On avait réussi à ce qu'il soit récupéré à l'aéroport et ramené en centre-ville dans une chambre qui lui a été prêtée 3 nuits simplement. Et puis après, bah, heureusement, entre temps, il a retrouvé le frère d'une amie qu'il avait en France, qui a bien voulu un petit peu venir à sa rencontre et l'aider dans ses démarches pour se faire des papiers, etc. Voilà. Et donc, au début, ça s'est pas trop mal passé grâce à la fois ce contact qu'on avait eu nous au départ et puis cet ami là qui s'est fait sur place. Et puis, au bout de quelques jours, ses papiers étant prêts, il devait pouvoir, parce que l'idée c'était de partir avec cet ami qui vit à la fois entre l'Angola et le Kinshasa. Mmh. Ouais. De pouvoir partir avec lui pour pouvoir redémarrer sur d'autres bases, mais en étant sur l'Angola, parce que à Kinshasa c'est vraiment très 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 difficile, hein. S'il n'y a pas, nous on s'est fait confirmer de multiples reprises, hein, si on n'a pas vraiment connaissance d'une personne qui va connaître qui va avoir vraiment la possibilité de faire travailler quelques heures, c'est mission impossible, quoi. On peut pas vivre sur place si on n'a pas le bras plus long que. Enfin bon, voilà. Donc il y avait cette possibilité-là, cette ouverture. Et effectivement, comme tu viens de le dire, le jour où il allait se mettre en route, les frontières ont été fermées. Donc ils se sont coincés là tous les deux. Cet ami qui a une petite piole sur. Sur Kinshasa et lui, en attendant de pouvoir bouger. Donc, ils sont à deux dans 8 mètres carrés depuis 3 semaines maintenant. Et sans aucun, en tout cas pour Junior, aucun moyen de survie. Et depuis le départ, il se plaint beaucoup d'une extrême chaleur qui est assez insupportable. Alors, je pense que c'est aussi parce que c'est en ville et que du coup, il n'y a pas du tout de... Il peut y avoir beaucoup de circulation d'air, je sais pas. Enfin bon, il se plaint vraiment d'une chaleur qu'il a beaucoup de mal à supporter, à laquelle il n'est plus du tout habitué. Puis alors là, ce qui devient dramatique, c'est que ils ont aussi annoncé un confinement, et que lui dit qu'il n'y a pas d'eau, en fait, ils n'ont pas accès à l'eau. Ils ne peuvent pas boire, et le seul moyen de boire, c'est de sortir de chez soi, de faire une distance des fois très très grande pour pouvoir aller acheter une bouteille d'eau, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment difficile. Enfin, moi, non, je trouve que ça fait vraiment peur, parce que nous, ce qu'on a entendu aux infos, c'est qu'il y avait un confinement qui était annoncé sur Kinshasa, qui a été reporté de quelques jours parce que c'était limite en train de donner lieu à des émeutes, à cause de la flambée de prix qui s'est annoncée aussi sec. Donc là, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire réellement ce confinement, sachant qu'il y a des milliers d'enfants qui traînent dans les rues. Le petit problème, là, parce que je dis maintenant, finalement, à notre échelle à nous, enfin, entre ce qui se passe en Orléans, que j'ai raconté là en début de l'interview, et puis ce qui se passe là-bas, c'est multiplié par 1000, quoi, et voire plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont s'en sortir là-bas? Ça doit être une situation vraiment horrible. Hein.
On en reparle la semaine prochaine ou la suivante, et je suppose que tu auras des nouvelles de Junior, qui pourra te dire d'autres nouvelles qui te diront comment il fait et comment...
parce que là, c'est difficile. Hein, c'est... Ouais. Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Yves.
Et puis, on se dit donc probablement à la semaine prochaine.
D'accord. Bonne journée pour ce qu'il en reste, et merci encore d'avoir écouté ce qui se passe à Orléans et à Kinshasa.
Eh bien, merci beaucoup, et puis à très bientôt.
Oui, à bientôt. Au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, partout dans le monde. Et maintenant, on va tout de suite retrouver Claire Klinwerk, enregistrée depuis Bayeul, pas très loin de Calais, pas très loin de Lille non plus. Bonjour Claire Klinwerk, hein, tu nous appelles de Bayeul, entre Lille et Calais, et tu es très très active donc sur le réseau Jungle, et tu vas nous raconter un petit peu comment ça se passe. D'abord, comment vas-tu?
Ben ça va, je confine, hein, comme tout le monde bien sûr. Je suis aussi beaucoup sur Amnesty, puisque je suis relais personne déracinée pour le Nord-Pas-de-Calais-Somme, donc forcément je m'intéresse à ce qui se passe. Et ce que je constate, c'est que, par exemple, à Calais, les démantèlements continuent tous les jours, jusqu'à hier ou avant-hier, parce que là, il est question aussi éventuellement de mise à l'abri volontaire. Mais pour l'instant, j'ai pas su que quelque chose s'était mis en place. Une nuit, là, il y a quelques jours, ils ont réussi à 3h du matin à réveiller les gars avec des gaz lacrymogènes pour démanteler le camp. À 5 heures, un autre groupe, ils les ont tabassés tant et si bien qu'il y en a deux qui se sont retrouvés à l'hôpital. Et je ne suis pas sûre que c'est le moment de gonfler les hôpitaux avec des bêtises. Et à 8 heures, ils sont réintervenus pendant la distribution du petit déjeuner par les bénévoles. Alors évidemment, ça c'est très agaçant. Devant ces démantèlements quotidiens, parce que c'est vraiment tous les jours, les associations ont interpellé le procureur de Boulogne. Mmh. La réponse écrite du procureur de Boulogne a été de dire « Ben moi, je ne sais pas qu'ils sont malades, donc je n'ai aucune raison d'empêcher ces démantèlements. » Moi, je reste assise sur mes fesses quand je sais qu'il y a un délai d'incubation qui peut être de 15 jours. Mmh. Donc, on ne sait pas qu'ils sont malades, bon, d'accord. Alors moi, je fais le pari que ces gens-là ne seront pas très malades parce qu'ils sont beaucoup plus résistants que nous, qui n'ont pas été élevés à la viande pleine d'antibiotiques et compagnie, et que donc, peut-être que chez eux, ça se passera mieux que chez nous. Mais ces attitudes-là, ça laisse aussi, même chez les Français, quand tu sais ça, tu te dis, c'est que le virus n'est pas si dangereux que ça. Et ça pousse pas forcément, du coup, la population à rester confinée. On dit que la population n'est pas confinée, mais on nous envoie des messages qui sont tout le temps contradictoires. Et là, ça en est un sacré de messages contradictoires.
Il y avait quand même des systèmes de distribution qui étaient mis en place, qui fonctionnaient. Les gens continuent à être dans des camps qui sont démantelés quasi quotidiennement et les distributions ne fonctionnent plus.
Ben, les distributions continuent à fonctionner parce que ben, les associations étant là, elles ont lâché personne, forcément. Il y a des associations qui ne peuvent plus parce que, par exemple, tous les Anglais sont repartis en Angleterre, bien sûr, devant le confinement, évidemment. Mais les autres associations, elles font le maximum. Il y a des associations qui ont moins bien fonctionné parce que, par exemple, à Dunkerque, la plupart des bénévoles avaient entre 170 et 85 ans. Donc, évidemment, tout le monde leur a conseillé de rester gentiment chez eux parce que c'est pas le moment, évidemment, d'attraper ce qui n'est pas nécessaire. Mais la vie active a été mise en place à la demande des associations pour venir conforter le boulot des associations. Et donc maintenant, les petits déjeuners de salam se font avec la vie active. Voilà, il reste donc à Calais, il reste le matin un petit déjeuner, où là, ils ont une boisson chaude, et la vie active donne un sandwich à midi. Okay. Voilà, c'est tout ce qui reste des distributions, quoi.
Et la vie active, c'est une structure plus ou moins municipale?
C'est pas municipal, c'est, je sais pas exactement, parce qu'ils sont pas sur Calais, ils sont sur Arras, je crois. Mais c'est une structure qui a déjà été sollicitée, qui travaille pas mal, qui fait du bon boulot. Et donc, qui connaît aussi ce milieu-là, parce qu'on peut pas mettre non plus n'importe qui pour intervenir auprès de populations qu'on ne connaît pas, quoi. Parce que forcément, ils ont pas forcément les mêmes habitudes que nous. Et c'est quand même important de connaître les habitudes des gens pour pouvoir les servir le mieux possible, là, bien sûr.
Ah ouais.
Mais là, la vie active, elle a une vraie expérience dans ce domaine-là. Donc, et avec Salam, je sais que ça se passe bien, quoi. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils l'ont déjà fait quand il y a eu la grande jungle. Là, ils avaient déjà travaillé ensemble. Donc, on reprend les mêmes et on recommence, quoi. Après, le problème, ça reste aussi les points d'eau, hein, qui ne sont pas en quantité non plus très importante. Je sais que sur le département, mais je ne me rappelle plus où c'était, il n'y avait toujours pas de points d'eau. Donc, hors des containers distributeurs d'eau, ce n'est quand même pas si compliqué que ça à mettre en place. On a beau dire qu'il faut se laver les mains, enfin, on nous a seriné ça tout le temps. Eux, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques de le faire, quoi. Et apparemment, ce n'est pas une priorité. Donc évidemment, tout ça, ça nous pose question, bien sûr. Hein. Okay. Et là, il est question maintenant de mise à l'abri.
Ouais.
Bon, les associations ont commencé forcément à parler aux étrangers, à faire des papiers dans toutes les langues pour que les gens soient informés et puissent réagir comme il faut au dernier moment en sachant ce qu'on leur propose. Là, dernièrement, ce qu'on a su, c'est que ça serait sur la base du volontariat. Il n'y aurait aucune obligation pour les immigrés à partir à tel ou tel endroit, parce que ça ne restera pas sur la côte. On sait qu'ils ont peu de bâtiments disponibles, et les bâtiments disponibles ne seront pas forcément même dans le département du Nord-Pas-de-Calais.
Et pourtant, quand on voit Calais, il y a une grande partie du parc immobilier de Calais qui est vide.
Oui, mais ce n'est pas une volonté de la maire qui vient d'être réélue du premier coup d'intégrer des étrangers dans sa ville. Hein. Elle ne voit pas les choses de cette façon-là. Donc, si on n'a pas un maire qui coopère, ce n'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que la volonté du maire y soit pour que les gens s'installent dans une ville, hein, forcément.
Ouais.
Obligatoirement, hein. Voilà.
Merci beaucoup Claire, et puis tu continues à nous donner des nouvelles. Vous êtes toujours à l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou à www.rfpv.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. On vient d'écouter Claire Klindwerk, enregistrée depuis Bayeul, entre Lille et Calais. Et notre émission est à présent terminée, donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
Bon, attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, Réseau Éducation sans frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.